4.3 Réconforter et aider les autres en période de crise, décès, problèmes conjugaux, maladies, etc. Lecture de la Bible, 1 Thessaloniciens 5:11, Galates 6:2, Philippiens 2:4. 1 Thessaloniciens 5:11 Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Galates 6:2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Philippiens 2:4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tous les pasteurs auront, à un moment ou à un autre, des personnes dans leur congrégation qui seront confrontées à des crises de différentes sortes, la mort est inévitable et les familles touchées auront besoin d'être réconfortées, les couples mariés connaîtront parfois des conflits qui devront être résolus, la maladie dans la congrégation exige souvent que les pasteurs fassent des visites à l'hôpital ou à la maison. En outre, d'autres problèmes surgissent de temps à autre et nécessitent l'intervention du pasteur. Pour toutes ces questions, le pasteur a besoin d'une certaine forme de formation et l'absence de formation peut être très préjudiciable aux personnes concernées et parfois à l'ensemble de la congrégation. La mort. Commençons par le plus difficile, la mort. Un livre utile intitulé « Answer to Pastor Question » par Howard F. Sugden et Warren Wiersbe fournit des informations très utiles aux pasteurs sur ce sujet sensible. Voici un résumé des principaux points abordés dans le chapitre sur les décès et les funérailles. Ne faites jamais de blagues sur la mort ou les funérailles dans les réunions publiques de l'Église. Contactez la famille dès que vous apprenez le décès d'un membre de la famille de l'Église. Téléphonez d'abord pour savoir si vous pouvez rendre visite à la famille. Une fois sur place, essayez d'avoir un ministère tranquille. Un pasteur bavard et bruyant fera plus de mal que de bien. Ensuite, exprimez votre sympathie et soyez disponible pour écouter et aider. Proposez de lire un passage de la Bible et de prier. Et faites-le avec le cœur. Lors de votre prochaine réunion, lorsque vous vous rencontrerez pour organiser les funérailles, laissez le parent le plus proche du défunt avoir le dernier mot sur l'heure, le lieu et la musique. Demandez s'il y a un passage favori de la Bible à lire. Le service funèbre ne doit pas être long et le sermon doit se concentrer sur une vérité réconfortante, ce n'est pas le moment de faire une exégèse doctrinale sur la mort ou la résurrection. Vous mettez du baume sur les cœurs brisés, alors soyez tendre. Les auteurs découragent les sermons lourds du type « ciel et enfer », mais précisent qu'il faut toujours donner l'assurance que toute personne qui fait confiance à Jésus-Christ est sauvée, mais qu'il n'est pas judicieux de retarder cette décision. Effectuez une visite dès que possible après les funérailles et réagissez aux signes de problèmes émotionnels et aux éventuels désaccords familiaux. Les auteurs terminent cette section par un conseil très judicieux. Votre ministère pastoral régulier, semaine après semaine, contribue à préparer les gens à l'heure de la douleur. Prêchez comme un mourant à des mourants, et lorsque la mort visitera le troupeau, vous et votre peuple serez préparés. Cher animateur, il n'est peut-être pas possible d'observer vos élèves en train de conduire des funérailles, mais ils doivent être en mesure de bien décrire le processus. Mariage et divorce. Lecture de la Bible, Éphésiens 5, 22-33, 1 Pierre 3:7. Dans le prochain résultat, nous traiterons de la préparation d'un couple au mariage, mais dans celui-ci, nous nous concentrerons sur les conflits conjugaux. Tous les mariages connaissent un jour ou l'autre un conflit. Pour certains, il s'agit d'un désaccord sur une question, souvent l'argent, mais la situation peut être bien pire, au point que l'un des partenaires menace de divorcer. Supposons qu'il vienne vous demander conseil. Comment s'y prendre? J'ai trouvé un article utile intitulé « The Basic of Counseling Marriage Problem » par Julie Ganshaw, que je vous encourage à lire dans son intégralité, mais dont je vous propose ici un bref résumé. Dieu a établi l'institution du mariage dans le jardin d'Éden, mais parce que le mariage est si fondamental pour le bon fonctionnement de la société, Satan cherche activement à détruire les mariages. Madame Ganshaw a raison lorsqu'elle dit. Éphésiens 5 est le passage clé sur le mariage et décrit la relation conjugale comme représentative de la relation que le Christ entretient avec l'Église. Comme le Christ traite l'Église avec amour et grâce, le mari et la femme doivent suivre son exemple et se traiter mutuellement de la même manière, Éphésiens 5, 22-33, 1 Pierre 3:7. Voir les problèmes de mariage. Les conflits dans les mariages peuvent résulter d'exemples erronés dans leur propre famille de ce à quoi un bon mariage devrait ressembler, ou peut-être que le couple a une mauvaise idée du mariage ou a reçu des conseils d'amis qui ne comprennent pas les principes bibliques du mariage et de la réconciliation. Ils peuvent vouloir se repentir et changer, mais ils ne savent pas comment. D'un autre côté, dit M. Ganshaw. De nombreux couples gèrent leurs problèmes en les évitant, en les fuyant et en prétendant qu'ils n'existent pas ou qu'ils disparaîtront avec le temps. Les problèmes ne sont pas résolus, le péché n'est pas confessé et aucune demande ou offre de pardon n'est faite. Pourtant, on s'attend à ce que les problèmes s'estompent avec le temps. Pourtant, le temps n'est pas une formule magique. Laisser passer le temps ne résout en rien les problèmes et ne résout rien. De nombreux couples viennent consulter, croyant à tort qu'un mariage en difficulté peut être rafistolé. Dieu ne nous appelle pas à dissimuler nos problèmes, mais à les résoudre bibliquement. Le Christ est plus que suffisant et fournit plus que suffisamment de grâce pour transformer un mauvais mariage en un mariage qui glorifie Dieu, Romains 5:20. Par conséquent, le couple ne devrait pas se contenter de moins qu'un mariage transformé par la puissance et la grâce de Dieu. Le rôle du conseiller. Le conseiller doit identifier les idées et les pratiques erronées qui sont à l'origine des problèmes de mariage. Ensuite, le conseiller doit aider le couple à mettre en œuvre des solutions bibliques tirées de la parole de Dieu, en communiquant clairement les réponses de manière à ce que le mari et la femme comprennent les attentes. Le conseiller doit utiliser des termes bibliques lorsqu'il discute des habitudes et des comportements au lieu d'utiliser un langage psychologique. Est-il trop loin ? On entend souvent la phrase suivante de la part d'une personne en difficulté dans son mariage : « Je ne l'aime plus, je pense qu'il, elle est allée trop loin ». Le couple peut suggérer que la séparation les aidera à résoudre leurs problèmes, mais c'est une réaction pécheresse au problème du mariage qui crée plus de difficultés qu'elle n'en résout. La séparation permet d'échapper aux problèmes, mais n'aide pas à les résoudre. L'auteur affirme qu'il s'agit d'une violation de 1 Corinthiens 7:5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et crée une tentation pour le péché. Le conseiller doit plutôt travailler avec le couple pour résoudre ses problèmes. Il y a toujours de l'espoir. Ganshaw affirme que aucun mariage, aussi troublé soit-il, n'est au-delà de l'espoir ou de la grâce de Dieu. Le couple doit remettre en question cette croyance erronée et croire qu'en Christ, il est toujours possible de changer, 1 Corinthiens 6, 9-11. Les époux doivent faire tout ce que Dieu exige d'eux pour créer l'unité dans le foyer. Ils doivent se confesser mutuellement leurs péchés, se réconcilier l'un avec l'autre et être ouverts aux orientations bibliques que leur conseiller leur donne. L'objectif est d'aider le couple à glorifier Dieu dans son mariage en améliorant la communication, ce qui conduira à l'intimité et à la croissance en tant qu'individu et en tant que couple. En s'efforçant de glorifier Dieu dans leur mariage, ils refléteront la relation entre le Christ et l'Église. Cher animateur, une fois encore, il ne vous est peut-être pas possible d'observer vos étudiants en train de conseiller un couple marié, mais ils devraient être en mesure de vous dire quels sont les principes lorsque vous les évaluez. Maladie. Lecture de la Bible, 1 Thessaloniciens 5:11, Galates 6:2, Philippiens 2:4. Parmi les membres de votre congrégation, il y a presque toujours quelqu'un qui ne va pas bien, qu'il soit à la maison ou qu'il ait été admis à l'hôpital. Commençons par la visite d'un patient à l'hôpital. Là encore, vous trouverez des conseils très utiles dans le livre « Answer to Pastor, question » de Howard F. Sugden et Warren Wiersbe. Apprenez à connaître le personnel de l'hôpital ou des hôpitaux que vous visitez. Les visites ont lieu à l'heure qui convient aux patients et selon les règles établies par l'hôpital. Renseignez-vous auprès de l'accueil sur la raison de la présence du patient avant de vous rendre sur place. Soyez déterminé à apporter des encouragements. N'essayez pas d'être un médecin. Ne posez pas de diagnostic et ne comparez pas avec d'autres cas que vous avez vus ou dont vous avez connaissance. Laissez le personnel s'occuper des questions médicales. Partagez un texte biblique approprié. Saluez les autres patients présents dans la chambre et incluez-les dans votre prière. S'ils ont des visiteurs, demandez-leur : « Cela vous dérange si je prie pour nous tous ?» La visite doit être brève. Qu'en est-il de la visite d'une personne malade à domicile ? Plusieurs des principes susmentionnés s'appliquent, mais j'y ajouterai ce qui suit. Prenez rendez-vous à l'avance. Si vous rendez visite à une personne du sexe opposé, emmenez votre conjoint ou quelqu'un d'autre avec vous, surtout si le patient vit seul. Ne vous asseyez pas sur le lit. Le site web Belief.net ajoute. Une personne malade a souvent la télévision allumée en permanence et ne pense même pas à la baisser. Demandez-lui, « Regardes-tu un de tes programmes préférés ?» En général, la personne répondra, « Non, éteignez-la. » Vous pouvez aussi adopter une approche plus directe et dire, « Puis-je éteindre la télévision pendant quelques minutes, le temps de notre visite ?» Lorsque vous partez, n'oubliez pas de proposer à la personne de la rallumer. Essayez de vous asseoir plutôt que de rester debout. Cela signifie que vous êtes au même niveau que la personne dans le lit et que vous n'adoptez pas une position de supériorité.